L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nous sommes le 21 mai 1975. Il est 5h08. Le soleil se lève sur Steinheim, une bourgade paisible située au sud-ouest de la République fédérale d'Allemagne. À l'horizon, une imposante construction de métal contraste avec les champs et les prairies qui l'entourent. C'est un établissement pénitentiaire ultra sécurisé. Au sein du bâtiment, Ulrike Meinhof est sur le point de quitter sa cellule pour la première fois depuis des mois. C'est le premier jour d'audience d'un procès emblématique qui marquera l'histoire allemande, celui de quatre membres de la fraction Armée Rouge. Il est 5h08, ce 21 mai 1975, c'est leur H de mon histoire. Lorsque les gardiens ouvrent la porte de sa cellule d'isolement, Ulrike Meinhof ne dort pas. Cela fait près de 8 mois que la prisonnière n'a pas vu la lumière du jour. Le temps lui apparaît comme un concept obsolète, inadapté à sa nouvelle vie faite de silence et d'immobilité. Il lui arrive souvent de parler seul, juste pour vérifier que sa voix fonctionne toujours. Elle le fait par habitude, comme on fait un contrôle technique, tout en sachant qu'on lui a enlevé ce droit si banal, celui de pouvoir s'adresser à un interlocuteur. Mais ce matin, une flamme d'espoir renaît en elle. Si le procès a lieu, c'est que tout n'est pas perdu. Ça signifie qu'on lui offre un espace où elle pourra s'exprimer réellement, et peut-être que le monde comprendra enfin les raisons qui l'ont menée à être impliquée dans ces crimes. Les gardes lui passent les menottes avec une brutalité démesurée. Ils surjouent leur bonne humeur tout en guettant sa réaction du coin de l'œil lorsqu'ils affirment « On va enfin condamner ces vermines communistes ». Ah, ça va bien donner l'exemple à tous tes petits copains pseudo-intellectuels qui trouvent que c'est marrant de tuer des innocents. À la miss ! Ulrike décide de se montrer docile et de garder le silence. Elle sent qu'il vaut mieux réserver ses arguments pour plus tard. La zone de la prison dans laquelle les membres de la fraction Armée Rouge sont détenus est spécialement construite en 1975. À l'époque, c'est l'un des blocs pénitentiaires les plus sécurisés au monde. Le toit et la cour sont recouverts d'un grillage en acier. La nuit, l'enceinte est éclairée par 54 projecteurs et 23 ampoules au néon. Des forces spéciales gardent continuellement le toit et des hélicoptères survolent le secteur. Tout est mis en place pour éviter une énième évasion. À mesure qu'Ulrike traverse les multiples sas qui rythment les couloirs gris de la prison de Steinheim, elle sent l'excitation monter en elle. Elle a hâte de revoir ses camarades. Ça fait si longtemps qu'ils sont isolés, qu'elle commence presque à oublier les traits de leur visage et le son de leur voix. Coupée du monde, elle a cru perdre pied plusieurs fois durant ces derniers mois. Alors, l'arrivée de la première audience se présente à elle comme un nouveau départ. Même si le procès a lieu dans le périmètre de la prison pour des questions de sécurité, le trajet jusqu'au tribunal dure plus de 2 heures. Et pour cause, le bâtiment est ultra sécurisé car les autorités ne veulent prendre aucun risque. Le bon déroulement de ce procès est primordial pour affirmer aux citoyens la légitimité de son système judiciaire. Une évasion de plus suffirait à faire perdre toute crédibilité à cet État nouveau qu'est la République fédérale d'Allemagne. Nous sommes en 1975, soit 15 ans avant la chute du mur de Berlin qui réunifiera l'Est et l'Ouest du pays. Des révoltes étudiantes secouent l'Europe depuis plusieurs années maintenant et les actes criminels perpétrés par la fraction Armée Rouge, le célèbre groupe terroriste d'extrême gauche, plonge le pays dans un climat général d'insécurité et d'angoisse. Ce 21 mai, dans la salle d'audience, il y a de l'électricité dans l'air. Les avocats s'installent fébrilement. Ils déballent leur dossier avec maladresse. Soudain, un brouhaha s'élève parmi le public. L'arrivée des accusés est fracassante. Ils s'installent dans le box, un sourire aux lèvres, s'amusant de l'effet qu'ils produisent sur l'assistance. Les quatre membres de la fraction Armée Rouge ont une trentaine d'années, mais leur dégaine est presque adolescente. Il est d'autant plus difficile d'associer ces visages aux crimes qui leur sont reprochés. Après des mois de détention, pendant lesquels ils ont enchaîné les grèves de la faim en guise de protestation, leurs traits sont creusés. Ils flottent dans leur uniforme carcéral. Mais à y regarder de plus près, le visage anguleux et les traits marqués d'Ulrike reflètent sa détermination et sa combativité. Elle est prête pour ce qui l'attend. C'est à cet instant qu'elle prend la décision de se battre pour ses idées jusqu'au bout et à n'importe quel prix. Après quelques minutes, la salle d'audience est plongée dans un silence pesant. La juge Prinzing rappelle alors les chefs d'inculpation, meurtre, tentative de meurtre et formation d'une organisation criminelle. Organisation criminelle, ce terme semble tellement ironique, se dit Ulrike. La seule réelle organisation criminelle, c'est l'État. Un sourire éclaire alors son visage lorsqu'elle croise les yeux d'Andreas Bader, celui qu'on considère comme le leader du groupe. Elle comprend à son regard malicieux qu'il s'est fait la même réflexion au même moment. Ulrike repense à sa rencontre avec Bader. C'était en mai 68, à Berlin-Ouest. Elle faisait partie de la foule qui manifestait contre la venue du Shah d'Iran. De nombreux étudiants munis de pancartes colorées s'étaient rassemblés pour dénoncer les dérives du régime autoritaire. Seulement, la contestation avait rapidement dégénéré et dans le chaos, un étudiant avait été tué par un policier. Plus tard dans la soirée, Ulrike s'était retrouvée dans un bar avec d'autres jeunes encore secoués par les événements. Après quelques verres, Bader avait fait un discours fantastique à l'Assemblée, dénonçant la barbarie de la répression policière. Ce grand dadé, à la dégaine un peu bad boy, dans sa veste en cuir noir, les cheveux hirsutes et les yeux pétillants, n'avait pas à faire d'effort pour qu'on l'écoute. Ulrike avait directement remarqué qu'il avait un charme fédérateur. Bader s'exprimait avec clarté et humour. Il n'hésitait pas à utiliser la provoque pour faire comprendre son point de vue. Les auditeurs, captivés par ce personnage singulier, ouvraient enfin les yeux sur les failles du système. Et cela fascinait Ulrike, qui observait tout cela d'un coin de la pièce, avec un air rieur. À l'époque de sa rencontre avec Bader, elle menait encore une vie de petite bourgeoise de gauche. Elle habitait dans une maison cossue avec un grand jardin au gazon vert vif, où ses enfants passaient des après-midi à jouer à cache-cache. Elle partageait sa vie avec son mari, directeur de la revue d'extrême gauche, pour laquelle elle était journaliste. Tous deux s'étaient vite rapprochés et partageaient les mêmes idées politiques. Leur foyer était souvent le décor de grands dîners où une flopée de leurs amis intellectuels débattait avec fougue un verre de pinot noir à la main. Elle se sentait chanceuse, bien entourée. Mais au fil des années, un malaise profond grandissait en elle. Ce quotidien confortable ne lui convenait plus, mais elle avait du mal à l'accepter. Ulrike dédiait de plus en plus de temps à ses reportages pour le journal d'extrême-gauche Concrete. Dans le grand grenier mansardé qui lui servait de bureau, elle passait des heures à se documenter et à taper ses articles sur la machine à écrire. Les sujets qu'elle traitait la passionnaient. Elle rencontrait tous les jours de nouvelles personnes inspirantes qui lui permettaient d'aiguiser un peu plus son regard critique sur la société allemande. Mais c'était bien là le nœud du problème. Plus elle s'engageait, plus le gouffre entre son discours et ses actes grandissait. à poser sa signature en bas des éditoriaux enflammés du journal ne suffisait plus. Ulrike sort de sa rêverie nostalgique quand son avocat lui tapote le bras. C'est un moment crucial pour l'ouverture du procès. Le juge Prinzing rappelle les faits et revient sur l'histoire de la fondation de la fraction Armée Rouge. Même si Andreas Baader menait des actions depuis longtemps avec les étudiants qui gravitaient autour de lui, la fondation officielle du groupe est datée au 14 mai 1970, il y a seulement 5 ans de cela. 5 années bouleversantes, si riches en rebondissements qu'elles semblent compter pour 20. Ulrike était là le jour de la création de la fraction. Elle s'en souvient comme si c'était hier. C'est le jour où ils ont écrit ensemble leur texte fondateur, sobrement intitulé « Construisons l'armée rouge ». Plus tôt dans la journée, sans vraiment réaliser ce qu'elle est en train de faire, Ulrike prend part au commando de libération d'Andreas Baader de sa prison à Berlin, où il purgeait une peine pour avoir incendié un grand magasin à Cologne. Derrière cet acte, l'objectif de Baader était de protester contre l'indifférence des citoyens d'Allemagne de l'Ouest face à la guerre du Vietnam. Pour les membres de la fraction Armée Rouge, la peine de prison de Baader est une immense injustice. Ils se creusent la tête pour trouver une manière de le sortir de là. C'est ainsi qu'un matin de mai, il est convenu qu'Andreas rejoigne Ulrike à l'Institut des études sociales. Ulrike a bonne presse. Les autorités lui font donc confiance. Il prétexte avoir besoin de se parler à propos de la rédaction d'un article. Durant quelques heures, ils travaillent paisiblement ensemble. C'est alors que 4 personnes encagoulées et armées entrent dans la bibliothèque. Et là, tout se passe très vite. L'action tourne au drame lorsque la fusillade avec la police comptabilise 1 mort et 2 blessés. Les bandits parviennent tout de même à s'échapper par la fenêtre. C'est dans la voiture, juste après cet effroyable événement, qu'Ulrike réalise qu'elle ne peut plus se cacher derrière son rôle de journaliste. Normalement, il était prévu qu'elle attende l'arrivée de la police à la bibliothèque. À leur arrivée, elle aurait alors dû agir comme si elle n'était au courant de rien. Mais, une fois au cœur de l'action, elle avait pourtant choisi spontanément de suivre ses acolytes et de fuir le lieu du crime avec eux. C'était comme une évidence. Un élan soudain et déraisonnable qui laissera des traces indélébiles dans sa biographie. Elle prend dorénavant part à des actions, non plus dans le but de diffuser des informations au monde, mais parce qu'elle pense réellement pouvoir changer les choses. D'ailleurs, elle s'affirme de plus en plus au sein de la fraction Armée Rouge. Elle prend la parole dans les débats et on ne la voit plus jamais assise dans un coin prendre des notes. Elle a besoin de prouver aux autres qu'elle n'est pas seulement bonne à écrire des articles, qu'elle aussi peut agir pour changer le monde. C'est ainsi qu'elle devient un symbole de la lutte armée et de la résistance contre l'État. Le premier jour d'audience se clôt dans la confusion, comme si les acteurs du procès prenaient tous conscience de la complexité de l'affaire. Ulrike ressent un mélange de frustration et de colère lorsqu'on la ramène dans sa cellule ce soir-là. Ce qui la chiffonne le plus, c'est que la question politique n'ait pas été abordée une seule fois. Son avocat lui avait demandé plus tôt dans la journée de faire profil bas. Elle s'était donc exécutée. Mais elle sent qu'elle ne pourra pas rester calme bien longtemps dans cette situation pénible. Heureusement, la communication entre les 4 membres du groupe est définitivement rétablie. Grâce aux avocats qui jouent les intermédiaires, Ulrike a pu avoir des nouvelles de ses camarades. Elle apprend qu'ils abordent le procès en ayant le même état d'esprit qu'elle. Ils se sentent tous comme des marionnettes dans un théâtre grandeur nature, de simples poupées interchangeables, caricaturant l'ennemi à bannir à tout prix. Le procès leur apparaît comme un simple prétexte pour que l'État puisse donner une leçon de morale aux citoyens allemands, comme si tout était joué d'avance. Puisqu'ils se sentent coincés, ils décident de faire front ensemble. Chacun de leurs avocats défendra l'ensemble des membres de la fraction Armée Rouge. C'est seulement comme ça qu'ils pourront outrepasser la logique de responsabilisation individuelle pour les actes qui ont été commis. Quelques jours plus tard, quand il se rend compte de cette prise d'opposition, le juge Prinzing a du mal à cacher son agacement. Le rouge lui monte aux joues lorsqu'il s'adresse au journaliste qu'il alpague à la sortie du tribunal. La défense collective utilisée par les accusés ne sert qu'un objectif, saboter le procès. Il n'est pas faux que les accusés montrent rapidement leur refus de coopérer. Pour eux, il serait illogique de se plier aux règles régies par un système qu'ils condamnent. Le procès et le protocole strict qui y est associé deviennent vite une corvée pour ces dissidents politiques qui n'hésitent pas à le faire savoir à l'Assemblée à grand renfort de provocation. Évidemment, cette vie carcérale détonne avec la vie de clandestins qu'ils ont menée pendant de nombreuses années. Itinérance, braquage de banque, vol de voiture et de papiers d'identité. Ce cache-cache permanent avec les autorités allemandes les oblige vite à être constamment aux aguets. Ulrike change de coiffure et de style un nombre incalculable de fois, mais ce petit jeu de déguisement finit par l'exaspérer. Les années qui ont suivi l'évasion d'Andreas de prison étaient particulièrement éprouvantes. Toujours à l'affût, les membres principaux de la fraction Armée Rouge se déplacent de planque en planque, s'appuyant sur l'aide des nombreux sympathisants de l'organisation. Il faut les imaginer, occupés à coordonner des attaques dans toute l'Allemagne, depuis la cuisine, au lieu de leurs débats enflammés. C'est aussi là qu'ils confectionnent des bombes artisanales sur le plan de travail. Mais une vie remplie de bouffées d'adrénaline, c'est pas tenable à long terme. Au fond, Ulrike est épuisée. Elle commence à réaliser que la vie de fugitif est loin d'être glamour. Sans nouvelles de ses deux filles, elle ressent un profond malaise. Ses proches lui manquent terriblement. Constamment en danger, elle a également vu comment la lutte armée entraîne petit à petit la mort de ses camarades. Pourtant, elle ne se rend pas aux autorités, loin de là. Elle continue de s'investir au sein de la fraction Armée Rouge ou la bande Bader Meinhof, comme on l'appelle dorénavant. Contre toute attente, Ulrike et Andreas sont devenus un binôme, deux personnages opposés qui s'attirent et se repoussent selon les périodes. Sa relation avec Bader est parfois conflictuelle. D'un côté, Ulrike est considérée comme le cerveau du groupe, la théoricienne. Elle prend en quelque sorte le rôle de la porte-parole, tapant sans arrêt des communiqués à la machine à écrire. Elle rédige aisément, à mesure que les réflexions émergent, sans avoir besoin de reformuler ses idées. Chaque déclaration est signée par le célèbre logo de la fraction Armée Rouge. Un fusil mitrailleur noir sur fond d'étoiles rouges. De l'autre côté, il y a le drôle de personnage d'Andreas Bader, un homme nerveux, très autoritaire, voire colérique. Son comportement impulsif traduit une réelle énergie révolutionnaire. Il peut déblatérer pendant des heures sur la nécessité de renverser le système, ce qui irrite Ulrike, qui a parfois du mal à suivre. Bader a 30 idées à la minute. Il ne tient pas en place. Dans certaines phases exaltées, il en vient même à faire l'apologie de la violence, ce qui crée d'innombrables querelles au sein de l'organisation. Le groupe débat constamment, durant des heures et des heures, sur la nécessité de la lutte armée. La guérilla urbaine, comme il l'appelle, est au cœur de l'organisation qui considère que la violence est un mal nécessaire pour révolutionner la société. Ils ont d'ailleurs été jusqu'à se former au maniement des armes en Jordanie pendant plusieurs mois. Pour sa part, Ulrike a parfois des moments de doute. Elle pense à ses filles, à sa vie de mère qu'elle a dû laisser derrière elle. Pour elle, il est impensable que des civils soient victimes de leurs actes terroristes. Contrairement à l'opinion de certains camarades comme Bader, qui pensent que la violence est un mal nécessaire pour dénoncer l'impérialisme américain et la guerre du Vietnam. Mais revenons-en au tribunal. La suite du procès est particulièrement agitée. Les conditions de détention ne se sont pas améliorées, malgré les nombreuses demandes des avocats des accusés qui sont à bout de force. Au cours des premiers mois de détention d'Ulrike, elle vit un véritable enfer. Enfermée dans une cellule sans fenêtre, où les lumières restent allumées en permanence, elle perd peu à peu la vivacité d'esprit qui la caractérisait. Tout est mis en place pour déstabiliser et intimider la prisonnière. Elle est ainsi privée de repères temporels, mais aussi sensoriels, puisqu'aucun son et aucune odeur ne lui parvient. Elle est aussi surveillée 24 heures sur 24. Fixant les murs blancs des heures durant, elle sent sur elle le regard malveillant des gardiens, ce qui la plonge dans un comportement paranoïaque et l'empêche de dormir. Quand elle n'est pas dans sa cellule, elle est interrogée par les autorités allemandes qui n'hésitent pas à utiliser la violence verbale et les menaces. Exaspérée, l'avocat d'Ulrike ouvre une nouvelle journée d'audience en rappelant à la salle la déclaration du juge Prinzing. Monsieur le juge affirme, la veille de l'ouverture du procès, qu'on a affaire ici à, je cite, « un cas pénal normal ». Si l'on décide de suivre cette logique et de considérer les accusés comme des prisonniers ordinaires, pourquoi sont-ils à ce point maltraités en prison Les conditions sont abominables. Ils ont été placés en isolement total pendant plusieurs mois, sans aucun repère temporel, sans aucune occupation, dans des cellules minuscules. Vous appelez ça privation sensorielle ? Moi, j'appelle ça de la torture. Coupés du monde, privés de tout contact avec leur famille. Si vous étiez à leur place, monsieur le juge, vous ne tiendriez pas 5 minutes. Cette tirade ragaillardit les accusés et leur amène une nouvelle détermination. Plus question pour eux d'adopter une attitude passive de bons petits soldats. Ulrike sent la rage en elle, la même rage qui l'a poussée à s'engager et à agir. L'injustice est insupportable, elle le sent dans son corps. Elle n'est pas seule à être en colère. Au-delà des murs de la prison de Steinheim, certains observateurs critiquent, dénoncent la démesure de ce procès. Ils le qualifient de vaste mascarade, estimant que les accusés de la fraction armée rouge sont condamnés d'avance par l'instance juridique. A l'inverse, d'autres voix dépeignent plutôt les accusés comme des fauchetons, à l'ego surdimensionné, dont le but principal est de se donner en spectacle au tribunal en espérant faire passer leur message extrémiste une dernière fois. Enfin, un coup de pub en somme. Pour Ulrike, suivre le reste du procès de manière disciplinée semble au-dessus de ses forces. Elle se dit que la solution se trouve peut-être encore une fois dans la désobéissance. C'est donc avec un enthousiasme enfantin qu'elle se joint aux railleries de ses camarades. Quand ils ne sont pas d'accord avec le juge Prinzing, ils soupirent bruyamment, rient, grognent et vont même jusqu'à l'insulter. S'il y a bien une chose qu'Ulrike a appris avec le temps, c'est qu'il ne faut pas attendre qu'on lui donne la parole pour exprimer son opinion.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Dans l'heure H aujourd'hui, je vous raconte le procès hors du commun des membres du noyau dur de la fraction armée rouge. Ennemi public numéro 1 en Allemagne de l'Ouest dans les années 70, ils répondent d'une multitude d'attaques terroristes qui ont plongé le pays dans un climat d'insécurité et de paranoïa. Parmi eux, il y a Ulrike Meinhof, brillante intellectuelle de gauche, portée par des idées révolutionnaires et devenue la tête pensante de cette organisation criminelle. Tous les jours, des millions d'Allemands suivent activement les audiences. L'affaire est extrêmement médiatisée puisqu'il s'agit du plus grand procès prenant place en Allemagne depuis celui de Nuremberg. Le cas Meinhof fascine particulièrement le public. Comment et pourquoi Ulrike, jeune journaliste couronnée de succès, en vient à s'engager activement dans la lutte armée au nom de la Révolution ? Avant même de s'engager dans la fraction armée rouge, Ulrike avait déjà sa réputation. Elle était célèbre pour s'exprimer fréquemment dans la presse sur différents sujets d'actualité. On l'invitait dès qu'il fallait intégrer un représentant de la gauche et elle se retrouvait ainsi à prendre la parole avec assurance. Elle, la jeune femme charismatique, au milieu de vieux monsieur apathiques. L'opinion publique vis-à-vis d'elle est donc profondément divisée. Certains la considèrent comme une militante politique respectée qui avait travaillé dur pour défendre les droits de l'homme et la justice sociale. D'autres la diabolisent pour avoir choisi la voie de la violence politique et participé à de nombreux actes de terrorisme impardonnables. Ces deux versions d'Ulrike coexistent donc dans l'imaginaire collectif, comme si elles s'étaient dédoublées par magie. Mais la réalité est évidemment bien plus complexe. La première requête de l'avocat d'Ulrike est un échec cuisant. Lorsque le juge Prinzing lui répond en expliquant sa décision lors d'une audience, il se fait immédiatement huer par les accusés et une partie de la foule. Le juge rejette, sans l'ombre d'un doute, la demande de non-lieu, ainsi que l'autorisation de donner le statut de prisonnière de guerre à Ulrike. Pour se défendre, il s'emporte en rappelant les faits. Les membres de l'organisation sont tout de même accusés de 5 meurtres, 54 tentatives de meurtre, plusieurs attaques à main armée ainsi que des attentats à l'explosif. Quand elle entend ces accusations, Ulrike ne peut s'empêcher de sourire intérieurement. Même après tout ce temps, ils ne comprennent toujours pas ce que nous avons essayé de faire. Ils ne peuvent pas comprendre notre désespoir face au système capitaliste oppresseur. Ils ne peuvent pas comprendre notre révolte. Ce procès est hautement symbolique aux yeux des quatre accusés, parce qu'il se présente comme une ultime démonstration du pouvoir de l'État. Dans ses meilleurs jours, Ulrike se réconforte en se disant qu'elle avait toujours su, au fond, qu'il faudrait passer par le tribunal un jour ou l'autre. Et que ce passage est nécessaire, qu'il fait partie intégrante de son engagement politique. La médiatisation du procès montre aux yeux du monde, de manière très concrète, la violence et l'oppression de l'État. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'histoire d'Ulrike Meinhof et de la fraction Armée Rouge, c'est aussi l'histoire d'une jeunesse qui essaye de s'épanouir dans un contexte politique extrêmement compliqué. En effet, il n'est pas aisé de se construire en tant qu'adulte lorsqu'on grandit aux côtés d'une génération qui a commis un génocide. Tout au long de son adolescence, et même après, c'est le sujet de nombreuses disputes entre Ulrike et son père. Lui voudrait oublier à tout prix cette sombre époque de l'histoire. Mais Ulrike ramène encore et toujours le sujet sur la table. Elle veut comprendre, mais le tabou autour de la Deuxième Guerre mondiale l'amène à se sentir profondément mal à l'aise et surtout en colère. Jeune adolescente, elle a déjà l'impression tenace que le système est corrompu, sentant que le gouvernement n'écoute pas les voix du peuple. Lorsque la guerre du Vietnam éclate, Ulrike a une vingtaine d'années. Elle réalise qu'elle assiste en spectatrice à une nouvelle catastrophe humanitaire où des milliers de vies sont sacrifiées au nom de l'impérialisme et de la domination. Là-bas, des familles sont déchirées, des enfants deviennent orphelins, des villages entiers sont rasés. Tout cela au nom de la soi-disant « liberté » et de la démocratie. Ulrike ne peut pas tolérer cette injustice, cette cruauté, cette barbarie. Et elle ne peut rester silencieuse face à l'horreur. Elle prend donc part à des manifestations et s'entoure de personnes politisées qui ouvrent aussi la discussion sur la part de responsabilité de l'Allemagne dans cette guerre meurtrière. Mais même en participant à des protestations, des sit-ins et des manifestations, elle se sent totalement impuissante, étant donné que ses actions semblent n'avoir aucun impact. C'est pour cela qu'au sein de la fraction Armée Rouge, elle devient peu à peu convaincue qu'une approche plus agressive est nécessaire pour changer les choses. Dans une des lettres qu'elle reçoit en prison au cours du procès, son père lui reproche de reproduire la même violence qu'elle dénonçait très tôt dans sa jeunesse. Malgré ces accusations, Ulrike reste convaincue de sa position et défend ses idées. L'État n'a pas à avoir le monopole de la violence. C'est fâcheux, mais quand il s'agit de renverser le système, il faut jouer sur le même terrain que son ennemi. En janvier 1976, soit plus de 9 mois après le début du procès, les 4 accusés lisent à leur audience un texte de plus de 200 pages pour revenir sur les raisons de leur engagement et tenter de justifier leurs actes. Soudés, les membres de la fraction Armée Rouge se présentent alors comme une entité politique à part entière, prête à argumenter avec fougue. Ils expliquent tout d'abord que leurs crimes sont uniquement un moyen utilisé au service d'une politique et mettent bien au clair que leurs actes violents n'ont pas été commis par plaisir. Ces crimes sont pour eux une forme de sacrifice pour qu'une vraie révolution soit possible. Lorsqu'il prend la parole avec véhémence, Andreas Baader rappelle que la guerre du Vietnam a fait des millions de morts et parmi eux, une profusion de civils innocents. Les témoignages des accusés s'enchaînent, captivant une partie de l'auditoire seulement. Le juge Prinzing, certains avocats et témoins, ainsi que la majorité des journalistes, restent de marbre face à leur discours exalté. Rien. Rien ne leur fera oublier l'angoisse permanente de ces années de plomb. Quand elle prend la parole, Ulrike dénonce en premier lieu la volonté du juge d'occulter la dimension politique du procès en l'abordant comme un cas pénal ordinaire. Lorsqu'elle finit de lire son texte, Ulrike adresse un dernier message à la cour. Nous ne sommes pas des terroristes. Nous sommes des combattants pour la paix et la justice.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous raconte l'histoire d'un procès qui a secoué l'Allemagne de l'Ouest dans les années 70. Ce procès emblématique, c'est celui du noyau dur de la fraction Armée Rouge, dont fait partie Ulrike Meinhof. Épuisé par les audiences interminables, cet intellectuel de gauche radical perd peu à peu espoir que son message politique soit entendu. Les semaines s'enchaînent et Ulrike Meinhof commence à se sentir réellement impuissante. Elle sait que le gouvernement est déterminé à la condamner, elle et les autres accusés, indépendamment des preuves. Elle sait également que, dès le départ, la fraction Armée Rouge avait peu de chances de gagner ce procès face à la puissance du gouvernement. L'État l'avait déjà condamnée dans l'opinion publique et le procès n'était qu'une formalité pour démontrer sa force. Mais près de 8 mois après le début des audiences, l'état de santé des accusés se dégrade, jour après jour. Ils bataillent pour avoir l'autorisation de voir un médecin, ce qui est finalement accepté. La conclusion de l'examen médical est sans appel. Ils sont tous les 4 jugés inaptes à assister à leur procès. Pourtant, contre toute attente, la procédure suit son cours comme si de rien n'était et les membres de la fraction Armée Rouge se retrouvent dans l'obligation d'être présents à toutes les audiences malgré leur faiblesse physique. En effet, le juge Prinzing estime que les accusés sont responsables de leur propre mal-être, puisque ce sont eux qui décident d'enchaîner les grèves de la faim en essayant de faire pression sur la Cour de justice. Dans le tribunal, des voix s'élèvent pour protester. Ulrike, à bout de force, utilise l'énergie qui lui reste pour s'adresser au juge en ces termes. On n'oubliera pas ce que vous faites aujourd'hui. Nous ne pouvons pas participer à ce procès parce qu'on nous torture jour et nuit. Son intervention déclenche une agitation dans le public. Personne ne peut rester en place. Andreas n'a plus que la peau sur les os. Il fixe le juge de ses yeux perçants sans parvenir à élaborer un discours sensé. Il commence alors à traiter le juge de tous les noms jusqu'à ce que les quatre accusés soient évacués de force. Ce soir-là, Ulrike est presque soulagée de retrouver sa cellule exiguë. Elle est maintenant fatiguée, épuisée de devoir faire entendre sa voix et d'être sans arrêt méprisée par un juge qu'elle trouve illégitime. Marionnette funeste d'un système qu'elle trouve injuste, violent. Toutes ces heures passées dans la salle d'audience, toute cette paperasse inutile. Cela lui semble soudain absurde. Elle ressent alors une profonde frustration et de la colère face à la situation de la fraction armée rouge et à l'incapacité du groupe à diffuser ses idées politiques. Elle sait qu'elle est jugée plus durement parce qu'elle est une femme. Les mauvaises langues la dépeignent comme une hystérique instable qui a tout quitté sur un coup de tête, réduisant sa lutte à une simple lubie. Dans la presse et même dans les témoignages entendus à la barre, on lui reproche de ne pas cocher les cases de la bonne ménagère. Certains essayent même de jouer sur la corde sensible, en lui tenant des discours moralisateurs, la faisant culpabiliser d'avoir abandonné ses enfants. C'en est trop pour elle. La culpabilité, c'est un sentiment qu'elle connaît bien, parce qu'elle ne la quitte jamais. Mais malgré tout cela, elle ne regrette pas d'avoir consacré ses dernières années à la fraction armée rouge. Elle a essayé d'œuvrer pour un monde meilleur pour ses enfants. Elle a essayé, mais on refuse de l'écouter. Le 9 mai 1976, Ulrike est retrouvée morte pendue à la fenêtre de sa cellule. Quelques heures plus tôt, elle avait noté dans son carnet que le suicide est le dernier acte de la rébellion. Ce matin-là, un silence total règne dans la salle d'audience. Stupéfait, les membres restants de la bande à Baader Meinhof reçoivent la nouvelle avec effroi. Les heures passent et le choc laisse place à la colère. Les accusés contre-attaquent et pointent du doigt la responsabilité de l'institution judiciaire dans la mort de leurs camarades. Pour eux, il s'agit bien d'un meurtre et non d'un suicide. Ils dénoncent une fois de plus les conditions de détention invivables qui, sous couvert de sécurité, visaient à détruire son identité. Ils s'insurgent de cette maltraitance injuste qu'ils subissent parce que l'État les considère comme des ennemis politico-militaires et non pas de simples prisonniers. Andreas décide ce soir-là de commencer une nouvelle grève de la faim. Dehors, au-delà des barbelés de Steinheim, des manifestations éclatent. La fraction Armée Rouge compte toujours des centaines de membres actifs qui crient « vengeance ». Suite à ce énième scandale, le juge Prinzing sera finalement révoqué pour son manque d'impartialité concernant l'affaire. On apprend qu'avant même le début du procès, il aurait demandé à des journalistes de brosser un portrait peu glorieux des avocats des accusés, dans le but de discréditer leur discours dans les médias. Le décès d'Ulrike Meinhof choque le monde entier et suscite de nombreux débats sur la lutte armée et la violence politique. Son enterrement rassemble plus de 3500 personnes venues lui rendre un dernier hommage. Étrangement, un mystère persiste quant aux circonstances de sa mort. Certains suggèrent qu'elle a été assassinée par les autorités. D'autres crient au complot et affirment que sa mort avait été orchestrée par des membres de la fraction Armée Rouge eux-mêmes, qui auraient été envieux de sa place de leader et de sa notoriété. Quoi qu'il en soit, l'histoire du procès ne s'arrête pas là. Il prend fin le 28 avril 1977, après 192 jours d'audience. Après avoir entendu plus de 1000 témoins, le jugement est rendu. Les trois accusés restants refusent d'y assister et leurs avocats organisent une dernière conférence de presse pour dénoncer l'injustice commise par l'État. Sans surprise, les membres de la fraction Armée Rouge ont été reconnus coupables pour l'ensemble des chefs d'accusation, à savoir la perpétration collective de 6 attentats à la bombe. de 4 meurtres, de 34 tentatives de meurtre et pour formation d'une association criminelle. Le juge conclut son discours en décrétant fermement que la politique n'a pas sa place au sein du tribunal. Comme Ulrike Meinhof le craignait dès le départ, le procès de Steinheim a finalement confirmé la légitimité de l'État allemand et de son système judiciaire, qui avait été remis en cause par les membres de la fraction Armée Rouge. Une page se tourne. Pour les citoyens de la République fédérale d'Allemagne, c'est la fin d'une longue période d'insécurité et de violence. Le verdict laisse les 4 membres du groupe abattus comme jamais auparavant. Leurs tentatives d'évasion mènent toutes à des échecs cuisants. 6 mois passent et, comme pour transmettre un ultime message de résistance, ils se donnent tous la mort la même nuit, celle qu'on appellera plus tard la nuit de la mort de Steinheim. Cependant, la disparition brutale de son noyau dur ne marque pas la fin de la fraction Armée Rouge, qui continue la lutte armée quoi qu'il en coûte. C'est seulement 20 ans plus tard que le groupe renonce définitivement à la violence. Encore aujourd'hui, l'héritage d'Ulrike Meinhof est l'objet de débats passionnés. Certains voient en elle une héroïne qui a lutté pour la liberté et la justice. D'autres la considèrent comme une simple terroriste sans vergogne, utilisant la violence pour atteindre ses objectifs politiques. Quoi qu'il en soit, Ulrike Meinhof a eu un impact profond sur l'histoire allemande, pour le meilleur comme pour le pire. Voilà pour ce récit passionnant que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Selene Szilagyovits.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.